Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Je souris parce que Louise Bernard s'étire. Il sera question de romans, de BD, mais également de milliardaires réels ou supposés.
Balance.
Vous retrouverez évidemment, tout le monde nous voit sur Europe1.fr, c'est pas une balance. Bruno Donnet pour ses télescopages, le portrait pré-fame de Lisa-Marie Marquez, Marc-Antoine Lebray en toute fin d'émission et dans quelques instants, justement, le journal des médias de Louise Bernard. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct pour podcaster l'émission si vous le souhaitez ou la partie seulement qui vous manque sur Europe1.fr. Notre infomédia avec cette question: comment la nouvelle première ministre Elisabeth Borne est-elle perçue par la presse? Quels sont ses réseaux dans le métier? A-t-elle vraiment fait campagne pour le poste en invitant tour à tour tous les éditorialistes de Paris? C'est ce qu'on a lu. Réponse avec Mariana Grépinet, grand reporter à Paris Match, qui lui consacre un long portrait. Géraldine Hausner, journaliste au Point, spécialiste des questions politiques et économiques. Et Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs. Nos invités ensuite, la réalisatrice Agnès Hubschmann, qui raconte dans un documentaire captivant la saga de deux petits garçons américains qui rêvaient de l'espace et qui sont devenus les deux hommes les plus riches de la planète, Jeff Bezos, fondateur et patron d'Amazon, et Elon Musk, patron de Tesla, et qui ont chacun lancé une entreprise qui fabrique ses propres fusées, Blue Origin pour Bezos et SpaceX pour Musk. Enfin, le comédien André Dussolier, à l'affiche d'une fiction diabolique, Juliette dans son bain, ce soir sur Arte. Qui incarne Juliette? Vous verrez que la question est elle aussi diabolique. C'est pas ce qu'on croit. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
J'ai fini de m'étirer, c'est bon. Une question au sommaire. Marlène Schiappa sera-t-elle animatrice sur C8 à la rentrée? Et puis dans l'actualité aussi, une saison de plus, une saison surprise pour Candice Renoir. Twitter lutte contre la désinformation, en tout cas essaye. Le conflit d'intérêts d'Anna Cabana. Et puis on finira avec un documentaire qui fait un portrait de Romy Schneider, mais sous un angle nouveau.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français à la télé hier soir.
Moi, je ne vais pas vous étonner en disant qu'ils ont regardé la série HPI qui cartonne toujours autant, 7 400 000 téléspectateurs. Bon, c'est légèrement en baisse, c'est normal, hein, puisque c'était les épisodes 3 et 4, mais ça reste des scores assez incroyables, 37,9% de part d'audience en moyenne sur les deux premiers épisodes. Deuxième, c'est M6 avec la diffusion du film Top Gun, 2 420 000 téléspectateurs. Bon score, hein, 12,2% de part d'audience. Bon score encore plus quand on est face à HPI.
C'est vrai.
Petit peu plus compliqué en revanche pour Envoyé spécial qui est tout de même troisième, 1 550 000 téléspectateurs devant France 2, 7,7% de part d'audience. C'est quand même en hausse par rapport à la semaine dernière. Ensuite, toutes les chaînes sont en dessous du million, notamment France 3 qui est quatrième avec le film Petit Paysan, 998 000 téléspectateurs seulement.
Europe 1, Culture Média.
À la une de votre journal des médias, Marlène Schiappa dément avoir une émission sur C8 à la rentrée.
Oui, la ministre déléguée à la citoyenneté, jusqu'à cet après-midi au moins, a tweeté hier en réponse à un article du Figaro. Elle a tweeté dans l'heure qui a suivi la publication. Article qui annonçait qu'elle pourrait rejoindre C8, qu'elle aurait fait plusieurs propositions d'émission, notamment à Cyril Hanouna. L'animateur, lui, a réagi à cet article dans son émission « Touche pas à mon poste » hier et il reconnaît avoir discuté avec Marlène Schiappa.
Je pense qu'elle a un très gros talent.
Ouais,
je pense qu'elle est faite pour ça.
Ouais.
Marlène m'a répondu. Bien entendu, je ne peux pas positionner pour l'instant, puisque je suis encore au gouvernement. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Peut-être que je vais être encore ministre. Peut-être que je vais avoir d'autres fonctions au sein du gouvernement. Mais on s'en reparle. Mais jamais nous ne sommes rentrés dans de tels détails. Après, elle m'a dit, voilà, ce qu'elle aimait bien à la télé. Bah, dit voilà qu'elle adorait les émissions voilà de témoignages voilà d'aide pour des délais ou les émissions qui aident les gens, etc. Donc on n'est jamais rentré dans ce détail, mais c'est vrai que c'est pas Marlène Schiappa qui veut être chroniqueuse, qui veut être animatrice, c'est moi en tant que producteur qui allé la voir pour lui dire que je croyais en elle.
La musique de suspense, c'est pas nous qui l'avons rajoutée. Hein.
Non, c'était dans l'émission « Touche pas à mon poste ». Exactement, c'était une sorte de mise à jour.
Dramatisation.
Voilà, exactement. Le Figaro, lui, maintient ses informations et précise que les négociations auraient bien lieu, mais que rien n'est signé.
Télévision toujours, on passe à France Télévisions. La série Candice Renoir aura finalement une saison de plus.
Oui, une 11e et c'est une surprise puisque France Télévisions est revenue sur sa décision. Le groupe avait annoncé transformer la série en téléfilm occasionnel et donc la saison actuellement diffusée, la 10e, devait être être la dernière. Finalement, il y en aura une de plus, au moins 6 épisodes supplémentaires qui sont en cours d'écriture, d'après Le Parisien aujourd'hui en France. Changement tout de même de taille dans la série, Candice Renoir va être mutée et donc la série ne sera plus tournée à 7 mais à Marseille. Tiens, c'est là où France Télé s'est engagée à tourner de nombreuses fictions suite à l'arrêt de Plus belle la vie, c'est malin. Annulation en revanche du téléfilm Candice Renoir, Alex Hugo, c'était un crossover annoncé. Crossover, c'est quand deux séries se mêlent dans une seule et même fiction. La faute à des emplois du temps trop chargés des acteurs.
Twitter tente de lutter contre la désinformation sur la guerre en Ukraine avec un nouvel outil.
Le réseau social va mettre en place des messages d'avertissement sur les tweets de désinformation. Pour pouvoir les lire, il faudra d'abord cliquer sur ce message qui mettra en garde l'utilisateur. Propager des informations fausse ou induisant en erreur peut avoir des conséquences néfastes sur la vie réelle des gens. Seront traités en priorité les tweets les plus visibles, ceux qui sont les plus partagés, ou bien ceux qui émanent de médias ou de gouvernements. Et en plus du message d'alerte, une fois que Twitter aura déterminé qu'un tweet propage de la désinformation, il ne sera plus possible de l'aimer ou de le partager. C'est une manière de limiter la visibilité de ces messages, d'empêcher une diffusion massive. Et cette politique de modération ne sera pas réservée à la guerre en Ukraine. Elle pourrait être mise en place pour d'autres conflits ou en cas de crise sanitaire ou de catastrophe naturelle.
Le Conseil de déontologie reproche un, je cite, « conflit d'intérêts » à la journaliste Anna Cabana.
Oui, l'affaire date de janvier dernier. Anna Cabana avait animé une émission sur la chaîne I24 News où il était question de Jean-Michel Blanquer. Le ministre était alors embourbé dans une polémique pour avoir annoncé des nouvelles mesures sanitaires depuis Ibiza où il était en vacances avec sa femme. Et sa femme, c'est justement Anna Cabana, mais la journaliste ne l'avait absolument pas dit à l'antenne. Et c'est bien ce que lui reproche le Conseil de déontologie. Il a rendu un avis mi-avril qui était jusque-là passé inaperçu. Il estime que la règle déontologique d'éviter ou de mettre fin à toute situation pouvant conduire à un conflit d'intérêts n'a pas été respectée par I24 News. Et ce conseil souligne que la chaîne aurait pu remplacer la journaliste pour ce débat. Aucune sanction n'est prise, puisque ce n'est pas du tout le rôle du Conseil de déontologie qui rend simplement des avis.
Et on termine ce journal avec votre focus programme du jour, Louise Bernard. C'est un documentaire consacré à Romy Schneider.
Oui, il était présenté à Cannes mercredi soir et il sera diffusé pour le grand public sur France 3 ce soir à 21h10. C'est un documentaire qui propose un portrait de l'actrice iconique qui est Romy Schneider, décédée il y a 40 ans, c'était le 29 mai. Un portrait avec un propos original, inattendu, même jamais ou rarement abordé. Romy Schneider était une femme forte et indépendante, à l'opposé de l'image qu'on donne souvent d'elle, celle d'une victime de drames. Alors certes, ces drames, ils existent, il n'est pas question d'en faire l'impasse, mais beaucoup d'éléments de la vie de Romy Schneider permettent de montrer la femme déterminée qu'elle était, sa façon de convaincre les réalisateurs, par exemple de lui confier certains rôles qu'elle voulait absolument, son incroyable modernité lorsqu'elle quitte tout pour venir à Paris pour Alain Delon, mais aussi lorsqu'elle a payé le divorce du futur père de son fils pour pouvoir vivre avec lui. Et pour raconter sous cet angle inédit, les auteurs ont choisi de ne pas avoir recours à des interviews de personnalités qui analysent Romy Schneider. C'est un procédé qu'on voit souvent dans des documentaires. Non, elles ont préféré redonner la parole à l'actrice, la laisser se raconter elle-même à travers les archives. Le tout entrecoupé d'extraits de films qui donnent envie de les voir ou les revoir. C'est très réussi. C'est diffusé ce soir à 21h10 sur France 3. Romy, femme libre de Lucie Carriès et Clémentine de Roudil.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit l'inscription, je le dis à chaque fois, mais c'est toujours gratuit. Europe1.fr. Suffit de s'inscrire à lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end.
À lundi.
Dans un instant, sur Europe 1, notre info média du jour, la nomination d'Elisabeth Borne en tant que Premier ministre a-t-elle satisfait les médias? Qui est-elle? Quels sont ses réseaux médiatiques? Les grands hebdos parus hier dressent le portrait de la nouvelle chef de Matignon. Pour en parler avec nous, Sylvain Courage, rédac chef à l'Obs, Mariana Grépinet, grand reporter à Paris Match et qui signe un long portrait d'Elisabeth Borne dans Match, et Géraldine Vosner, journaliste au Point. Ils arrivent dans ce studio par ordre alphabétique.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est peut-être la seule grande nouvelle politique depuis le deuxième tour de l'élection présidentielle, la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon comme première ministre. En général, ce genre de nomination aurait mis les médias en émoi. Cette fois, on dirait que non, pas d'effet waouh. Les journaux ne sont d'ailleurs pas d'accord entre eux. Pour certains, c'était joué d'avance. Pour d'autres, tout s'est décidé au dernier moment. Ils n'étaient d'accord que sur un point. C'est la première femme à occuper ce poste depuis Edith Cresson, il y a 30 ans, nommée, faut-il le rappeler, par François Mitterrand. Alors, qui est Elisabeth Borne du point de vue médiatique? Quels sont ses relais dans les médias? Comment est-elle perçue? Réponse avec trois experts et expertes de la chose politique, trois journalistes. Par ordre alphabétique, Sylvain Courage, vous êtes rédac-chef à l'Obs. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Mariana Grépinet, grand reporter à Paris Match, et vous avez signé dans le numéro qui sort de Match un portrait d'Elisabeth Borne. Je vous salue également, bonjour.
Bonjour.
Et Géraldine Vosner, qu'on connaît bien ici à Europe 1, journaliste au Point désormais, au service politique. Bonjour Géraldine.
Bonjour.
Alors je l'ai dit, la nomination d'Elisabeth Borne n'a pas créé d'effet waouh, comme c'était pourtant annoncé, paraît-il, en coulisses par l'Élysée. En fait, la grosse surprise pour la presse, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise.
Ah, oui,
pardon. Mariana Grépinet.
Tout à fait. Moi, c'est aussi pour. J'ai choisi cette colonne de vertébrale pour construire mon papier autour d'une chanson d'Angèle.
Oui.
Alors, c'est oui ou bien c'est non.
Vous pouvez la chanter, si vous voulez. Hein.
Non.
J'ai failli la préparer, je me suis dit.
Il pleut déjà, on va s'éviter ça. Mais parce que c'était vraiment ça. Nous, on a commencé à travailler sur le sujet à partir de jeudi, donc à donner des coups de fil, etc., pour préparer un portrait. Pendant le week-end, je me suis dit, oulala, ça tourne mal, ça va pas être elle. Donc, j'ai tout mis en stand-by, et lundi, c'est revenu. En fait, même déjà dès dimanche soir, des gens qui ne m'avaient pas répondu pendant le week-end me rappellent dimanche soir, je me dis, oulala, c'est un signe. Mmh. Et lundi matin, voilà, on commence.
J'avais pas pensé à ça. Paris Match, c'est un grand journal avec un gros staff. Est-ce que vous préparez le portrait d'Elisabeth Borne, et quelqu'un d'autre prépare un portrait de Catherine Vautrin, et quelqu'un d'autre, il y avait même le nom d'Audrey Azoulay qui avait circulé.
Alors, pour tout vous dire, hein, vraiment, là, on vous raconte tout.
Bah, c'est ça, c'est une émission média.
Tout à fait. En fait, on avait préparé Marisol Touraine, on était voilà, une reporter était sur Marisol Touraine, et Catherine Vautrin, non, on l'avait, enfin, on commençait à se dire qu'il fallait qu'on s'y mette, et je pense qu'on s'y serait mis collectivement, sinon voilà. Alors, là, on a travaillé individuellement.
Ça sentait l'encadré. Géraldine Vosner.
Ouais, non, bah, le point pareil, hein, le portrait de Catherine Vautrin était prêt, Marisol Touraine également, Audrey Azoulay et donc Elisabeth Borne, c'est venu un peu plus tard, même si on avait toute la matière, parce que effectivement, son nom circule depuis un mois et demi, enfin c'est, oui. Ça fait très longtemps qu'il circule, et on avait bien compris que bon, c'était en gros la solution de facilité, un pis-aller, et qu'on cherchait plutôt un profil politique.
On va parler du timing. Il y a deux semaines, lundi 9 mai, le président Macron était à Berlin. Il était en compagnie du chancelier Olaf Scholz. Une journaliste lui demande en conférence de presse s'il connaissait le nom du ou de la futur Premier ministre. Réponse oui. Petit retour en arrière.
Savez-vous, Monsieur le Président, quel Premier ministre français occupera le poste pour ce Conseil des ministres? Merci.
Alors, sur la dernière question... oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant.
Sylvain Courage, il a menti.
Oui, il laisse monter l'attente. Il a peut-être une idée derrière la tête, mais en fait, on sait qu'à ce moment-là, aujourd'hui, on a reconstitué. Il y a la boîte noire a été décryptée par l'ensemble de la communauté journalistique. En fait, il est dans l'hésitation à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il est sur la piste Vautrin, parce qu'une partie de son entourage aussi, il engage dans cette direction. Et notre amie Elisabeth Borne, elle attend et elle commence à désespérer. Donc en fait, il joue avec les nerfs de tout le monde, avec les nerfs des journalistes aussi, en prétendant savoir, alors qu'il est encore en train d'hésiter et qu'il a hésité jusqu'à dimanche.
Et est-ce qu'à l'époque, les journalistes savaient qu'il hésitait ou pas? Est-ce qu'on connaît à ce point les arcanes de l'Élysée pour savoir que quand il dit oui, dans son fort intérieur, il pense peut-être?
Alors,
Mariana Grépinet.
Disons qu'on a un certain nombre d'interlocuteurs qui connaissent probablement le président bien mieux que nous et qui ont appris à le décrypter, certains depuis une dizaine d'années déjà. Donc je pense qu'on peut dire qu'on parle le Macron, peut-être pas complètement couramment, mais quand même pas trop mal. Donc effectivement, le nom d'Elisabeth Borne avait beaucoup, beaucoup tourné. Ensuite, celui de Catherine Vautrin est arrivé, mais quand même en sous-main, celui d'Elisabeth Borne restait. Et puis ensuite, on a compris qu'il y avait eu une guerre au sein de la Macronie et au plus haut sommet de la Macronie, qui, quand le nom de Catherine Vautrin a été poussé par certains, se sont rebellés.
On a également cité le nom de Marisol Touraine. Point commun, ce ne sont que des femmes. Et mardi, dans cette émission, Bruno Donnet a suivi le premier discours d'Elisabeth Borne, c'était la veille, le lundi, et les commentaires sur les télés. Elle a évoqué la place des femmes dans notre société, la Première ministre, et ça a semblé à Bruno Donnet une belle priorité. Et puis cette expression comme un mantra sur toutes les chaînes.
Vous nous dites, Madame Borne coche toutes les cases.
Cocher des cases, BFM expliquait pourquoi Elisabeth Borne avait été choisie.
Et pourquoi stratégiquement c'est intéressant et pourquoi ça coche des cases?
Et c'était le même argument aux 20h de TF1.
À 61 ans, Elisabeth Borne coche bon nombre de cases.
Et Bruno Donnet avait compris, mais il s'attristait du fait que la case principale qui convenait de cocher, c'était la case femme. Mariana Grépinet, vous aussi, vous écrivez qu'elle coche toutes les cases, dont la case femme. C'est pas vraiment un compliment, comment vous voyez ça?
Cocher toutes les cases, bah, oui. Ça veut dire que rationnellement, c'était elle le choix. Mais parfois, on a envie d'aller plus loin que la raison.
Oui, c'est des cases un peu... elle est proche d'Alexis Kohler, c'est une bonne exécutante, elle est de gauche, elle a fait toute sa carrière à la fois professionnelle et politique dans le sillage du Parti Socialiste. Elle était à la cabinet de Jospin avec Delanoë, c'est Anne Hidalgo qui la recrute à la mairie de Paris. Elle connaît différents dossiers, elle a occupé 3 ministères depuis 5 ans, les transports, le travail, l'environnement. Donc on se dit, effectivement, ça coche pas mal de cases. Et la case femme, qui était ce que voulait Emmanuel Macron, ça, on n'a pas...
Le doute n'est pas permis.
On n'a pas vraiment compris pourquoi il voulait absolument une femme. Mais enfin, le fait est...
Si j'ai bien suivi, parce qu'il avait promis déjà il y a 5 ans qu'il n'avait pas tenu cette promesse.
C'était une promesse d'il y a 5 ans.
Non tenue.
Ça devenait compliqué pour lui de nommer à nouveau un homme, parce qu'il donne l'impression, du coup, d'être sexiste.
Alors que et puis il y avait cette photo désastreuse.
Il affiche l'égalité aux femmes.
Boys Club.
Voilà. En plus, on lui reproche de ne pas avoir assez de femmes dans son entourage. Bref, là, il était. Finalement, il a choisi sous la pression. Il a choisi sous la pression de sa promesse et de son entourage.
Alors voilà pour l'entourage politique, le réseau politique. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est une émission média, c'est la manière dont elle est perçue par la presse. Beaucoup d'articles racontent qu'elle a peu de réseau, mais qu'elle passe son temps à voir des journalistes. Mariana Grépinet, vous écrivez, elle menait, on parle d'Elisabeth Borne évidemment, elle menait depuis plusieurs semaines une campagne discrète devant les éditorialistes. Elle déroulait son parcours et ses réussites. Et dans Le Point, Gerline Vosner, c'est Mathilde Siro qui signe le papier et qui dit « Elle donne l'impression de faire campagne pour le poste de ses rêves, recevant à tour de bras tout ce que la capitale compte de journalistes politiques. Est-ce qu'elle vous a reçu? Est-ce qu'elle a fait campagne auprès de vous? Qui veut répondre?
Alors, moi, c'était déjà il y a plus longtemps, parce que la campagne, elle l'a commencé il y a longtemps. Je me souviens que oui, moi, la dernière fois que je l'ai vue, je l'ai vue en novembre, mais je l'avais vue aussi avant les régionales, quand elle commençait à placer ses pions, parce qu'elle cherchait une terre où arriver. On avait parlé, effectivement,
une
terre d'accueil. On avait parlé du Calvados, où elle nous a parlé de son grand-père. Elle a entamé depuis de longs, longs mois un travail de séduction de la presse, parce qu'elle sait qu'elle a ce profil d'exécutante.
Comment ça se passe dans ces cas-là? J'aimerais bien être la petite souris. Vous êtes toute seule? Vous arrivez avec plusieurs journalistes?
On est généralement un groupe, un petit groupe de journalistes, 4 ou 5, et on est reçus au ministère à déjeuner. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce qu'elle ne mange rien, elle picore Elisabeth Borne. Donc on a faim généralement quand on va à son ministère, parce que ce sont des espèces de petites bouchées végétariennes, et puis il n'y a rien d'autre, elle en picore 2.
Il faut déjeuner avant. Courage, vous étiez invité, vous aussi?
Non, je n'ai pas été reçu, mais je sais que d'autres journalistes de l'Obs l'ont été, parce qu'effectivement, elle a fait cette grande tournée. Je pense que quand on est ministre, on ne peut pas s'abstenir de faire ce genre d'organiser ce genre de déjeuner, d'avoir ses contacts. Elle a fait le job, comme on dit, et c'est vrai qu'elle avait besoin d'humaniser son personnage, parce qu'elle a le profil très techno, de cabinet, donc il faut pouvoir raconter une histoire. Et cette histoire, elle a commencé à la raconter.
Même question à vous, Mariana Grépinet, avant qu'on marque une pause. Elle vous a invité à déjeuner, à aller la voir pour faire campagne auparavant?
Alors non, moi je ne l'ai pas vue là tout récemment, mais je l'avais rencontrée dans des déjeuners, effectivement, comme le racontait Géraldine préalablement. Et effectivement, elle ne mange pas beaucoup.
C'est une info. Autres infos que j'ai découvertes en lisant la presse, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortent. Et les moins gentilles qu'il n'y paraît, Culture Média continue, à tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
La nouvelle première ministre nommée à Matignon par le président Macron, c'est Elisabeth Borne. Comment est-elle perçue par la presse? On en parle avec Mariana Grépinet, grand reporter à Paris Match, qui signe un long papier, 4 pages dans le Match qui sort cette semaine consacré à elle. Sylvain Courage, vous êtes rédacteur-chef à l'Obs. Géraldine Vosner, journaliste au Point, au service politique du Point. Alors évidemment, on repère tous les compliments sur Elisabeth Borne, des portraits élogieux, c'est normal. Élève brillante, ingénieure des ponts et chaussées, polytechnicienne, passée par 3 ministères, elle connaît très bien les dossiers. Très bonne négociatrice, suivant les papiers, ou alors redoutable négociatrice. Le vice-président de la CPME dit Elisabeth Borne s'est révélée à l'écoute et capable de prendre en compte chacun. Philippe Martinez de la CGT dit à peu près l'inverse. Et là, c'est là où on entre un peu dans le dur. Un membre du gouvernement dit « Avec elle, personne ne moufte ». Mariana Grépinet, je vous lis, fruit de votre enquête. Elle est réputée pour épuiser ses collaborateurs. L'un d'eux se souvient l'avoir vu hurler sur un conseiller jusqu'à le faire pleurer. « J'en ai marre de travailler avec des cons. Je suis entourée de cons », lance-t-elle également lors d'un déplacement à New York. Et j'enchaîne parce que c'est l'Obs qui raconte la suite de cette colère. L'Obs raconte « Elle était odieuse, tyrannique. Tout le monde a été soulagé quand elle est partie », confie un membre du cabinet de Ségolène Royal. Pour s'en séparer, Ségolène Royal a appuyé sa nomination à la présidence de la RATP. Waouh.
Oui, les relations avec Ségolène Royal apparemment ont été orageuses. On n'a pas tous les détails, mais ça, elles se sont quittées en mauvais termes. Elles ont collaboré un temps, puisqu'elle était la directrice de cabinet et que Ségolène Royal l'avait repérée comme préfète de Poitou-Charentes. Mais ça s'est fini dans les cris et dans la tension.
Géraldine Vosner.
Oui, mais ça fait partie aussi des gentillesses qu'on entend entre anciens collaborateurs. Il faut savoir que Ségolène Royal était elle-même terrible. Terrible, une réputation dramatique dans son cabinet, des gens en sont sortis brisés. Donc, moi, je prendrais avec pincette quand même ce type de témoignage quand ça s'est mal passé au sein d'un cabinet. Mais cela dit, elle a la réputation de quelqu'un de sec, de tranchant. Quand ça ne va pas vite, elle le fait savoir.
Mais une chose est d'être sec et une chose est d'être insultant.
Exactement.
Ce qui n'est pas la même phrase.
Oui, tout à fait. Après, je pense que c'est quelqu'un qui est, d'après ce qu'on nous a expliqué et raconté, extrêmement exigeant. Alors, il y a deux manières de voir les choses quand on parle de l'exigence. Il y a ceux qui disent qu'elle est tellement exigeante avec elle-même qu'elle l'est avec les autres, et donc ça devient un compliment. Et puis, il y a ceux qui disent, en fait, c'est invivable, c'est insupportable, et elle était quand même surnommée aussi burn-out. Donc, burn-out, vous avez compris le jeu de mots.
Bien sûr.
Voilà. Et pas seulement sous le cabinet royal.
Voilà. Donc, et Ségolène Royal avait cette petite vacherie que vous rapportez, Mariana Grépinet, dans Le Point. Elisabeth Borne, comme son nom l'indique. Alors, juste un mot.
Dans Paris Match. Mais
on voit que Ségolène Royal l'a bien accueilli.
Vous avez raison, je lisais la phrase d'après, parce que dans Le Point, c'est un autre surnom qui est annoncé.
Méchanta.
Méchanta, qui l'appelle Méchanta?
Les membres de son cabinet.
Actuel.
Alors, on ne sait pas si c'est sous le coup de la plaisanterie ou sous...
Alors, ah oui, c'est vraiment pas moi qui signe le papier,
c'est Mathilde Sirot. Donc, voilà, mais c'est pas un surnom gentil, hein. Ça dit quelque chose.
Voilà, et je vais rappeler toutefois, pour prendre de la distance et de la réserve, cette phrase de Chateaubriand, il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Alors parfois, les journaux ne sont pas d'accord. Par exemple, dans l'Obs, on apprend... On parle d'Elisabeth Borne, elle s'est distinguée par son aisance à répondre sans notes aux questions techniques, notamment à l'Assemblée. Et selon Le Point, elle lit encore ses fiches lors des questions au gouvernement. Alors je voudrais savoir, est-ce qu'elle a des notes? Est-ce qu'elle n'a pas de notes? Mettez-vous d'accord. C'est pas beau qu'elle ait signé. Comment?
Non, mais je pense que ça dépend des dossiers. Parce que là, moi, j'ai lu. Alors c'est vrai, j'ai lu partout. Elle est parfaite, elle connaît parfaitement les dossiers. J'ai pu vérifier que ce n'était pas forcément le cas.
Non,
elle ne maîtrise pas tous les sujets. Et notamment, je me souviens d'avoir discuté avec elle des OGM, du nucléaire. Elle était quand même assez fragile sur un certain nombre de sujets. Elle ne connaît pas tout. Par contre, elle est avide de bien faire. C'est une excellente élève. Elle l'a toujours été. Donc, elle a des fiches. Alors, elle peut s'en libérer, mais pas toujours.
Oui, ce qui est important, c'est d'essayer d'être précis quand on est ministre et quand on répond aux questions.
On est d'accord.
À l'Assemblée. Donc voilà, on peut recourir aux fiches et à sa mémoire.
C'est amusant.
Égal.
C'était les deux infos contradictoires dans deux papiers que j'ai lus attentivement. Géraldine Vosner, je me tourne vers vous parce que Le Point a mis Elisabeth Borne en une. Sylvain Courage et Mariana Grépinet, Match et Lopes, ont juste fait un titre en une, même pas une petite photo. La question, est-ce qu'Elisabeth Borne peut faire vendre du papier pour dire les choses d'une manière un peu triviale?
Alors nous, la couverture, on la réserve à des scoops ou à des choses qu'on a complètement en exclusivité. Et là, en termes de photos, je veux dire, parce que aussi bien sur le papier, il y a des infos et je suis contente de mon papier, mais en termes de photos, on n'a rien de dingue. En fait, on n'a pas eu d'effet waouh cette fois-ci. Donc on espère que ça va venir et nous espérons vous réserver des surprises et peut-être qu'elle fera la couve prochainement.
Le titre de l'Obs est un peu perfide puisqu'il met en tout petit Matignon, en gros, en tout petit Elisabeth Borne, mais l'Obs, la fin de l'ambition.
Oui, on avait ce dossier.
C'était à double détente.
Oui, alors...
Et c'est même à triple détente parce que enquête sur notre nouveau rapport au travail, sachant qu'elle a été ministre du Travail, on s'est dit... Oh là.
Alors, il n'y a pas de lien entre le titre principal et le streamer, le surtitre.
Ouais.
On a réfléchi à passer à Elisabeth Borne en couverture, mais on n'avait pas l'ensemble du gouvernement. Et nous, notre sujet, c'est de savoir quel va être l'équilibre gouvernemental et quelle politique elle va entreprendre. Donc, on s'est contenté d'un grand portrait. Et on a remis à plus tard l'analyse de la politique gouvernementale.
Ce qui est très intéressant en matière de presse, c'est de voir la manière dont chaque journal voit midi à sa porte. Libération a titré, c'était mercredi, Elisabeth Borne, l'écolo-molo. Je vais citer l'article du HuffPost. Elisabeth Borne, première ministre, quels effets sur les petites filles en termes de modèles? Donc c'était leur angle. Et tout aussi révélateur, l'article de Femme Actuelle de mercredi. Elisabeth Borne, son confortable salaire en tant que Premier ministre. Donc il ramène tout à son train de vie. Donc il cible sur la lectrice de Femme Actuelle. Et ce qui m'a vraiment étonné, ils sont mis sous l'angle de l'augmentation, je cite le papier. En tant que ministre, Elisabeth Borne émargeait environ 10 000 euros bruts par mois. La nouvelle chef du gouvernement va donc toucher environ 5 200 euros bruts supplémentaires tous les mois.
comme n'importe quel premier ministre. Elle n'a pas une augmentation
elle a
du
eu
fait
une promotion.
Que ce soit elle. Voilà, ça, c'est, la promotion est
comment
sûrement méritée.
Comment vos journaux respectifs vont travailler avec elle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dédié à chaque ministre? Au contraire, il y a quelqu'un qui est dédié à Matignon? Comment ça se passe ensuite? Est-ce que les cartes sont redistribuées également dans les rédactions, Gerline Vosner?
Je ne crois pas, non. Bah nous, c'est Mathilde qui suit l'exécutif, donc elle aura bien sûr un rapport privilégié avec elle, sachant que nous, on n'est pas une très grosse rédaction, on fonctionne aussi par dossier. Donc selon les dossiers qu'on suit, on sera tous plus ou moins amenés à travailler, sinon avec elle, au moins avec ses équipes, oui, puisque tout remonte à Matignon.
Même question, Sylvain Courage.
Nous, on va la suivre comme on suit les gouvernements habituellement, mais on va mettre un accent sur la question de l'environnement, puisqu'elle est censée mettre en œuvre la planification écologique. Nous, on a toute une équipe de journalistes très spécialisés sur les questions environnementales, et eux, ils vont la suivre, et ça risque d'être un peu douloureux parfois.
Voilà. Et vous, Mariana Grépinet, vous attendez des belles photos neuves qui frappent et qu'on se dise « waouh ».
Voilà. Et ça, je dois dire que quand les choses se négocient à très haut niveau, ça se négocie à un niveau au-dessus du mien.
C'est-à-dire ?
Voilà. C'est mon Bruno Jeudy qui est en cours de négociation pour quelque chose avec les équipes de Matignon.
Merci beaucoup. Elle va être très contente d'aller travailler et faire des interviews avec Le Point maintenant que vous avez révélé qu'elle s'appelait Méchanta dans son cabinet. Merci Géraldine Vosner, service politique du Point. Merci Mariana Grépinet, grand reporter à Paris Match. Merci Sylvain Courage, rédacteur chef à l'Obs. C'était passionnant. Culture Média continue évidemment. À bientôt, j'espère. Dans un instant, sur Europe, on va parler de la guerre des étoiles, mais pas de la saga de George Lucas, pas de Chewbacca, mais de celle que se mènent pour de vrai les deux hommes les plus riches du monde dans la conquête spatiale. Ils se détestent. Jeff Bezos, Elon Musk, c'est le sujet d'un doc diffusé dimanche soir sur France 5. Nous serons avec sa réalisatrice Agnès Hubschmann. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Agnès Hubschmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, réalisatrice, vous avez réalisé un documentaire Musk contre Bezos, la nouvelle guerre des étoiles, qui revient sur cette bataille que se mènent les deux hommes les plus riches de la planète et qui veulent en sortir. Jeff Bezos, fondateur et patron d'Amazon, Elon Musk, patron de Tesla, qui ont créé leurs deux entreprises spatiales, Blue Origin pour Bezos, SpaceX pour Musk. Et votre documentaire sera diffusé dimanche soir à 21h sur France 5. C'est dans le cadre de la collection de la série Le Monde en face, présentée par Mélanie Taravant. D'abord, question, pourquoi eux deux? Quand on voit le doc, on a l'impression qu'on est dans la vie étant l'enfleur tranquille. On a l'impression que c'est deux enfants qui ont été séparés à la naissance, mais qu'ils étaient faits pour se retrouver.
C'est un peu ce qu'on a découvert en faisant ce film. Mais moi, je ne m'y attendais pas forcément. Parce qu'au départ, c'était vraiment l'idée de faire un film géopolitique qui révèle un petit peu, on va dire, qui raconte la compétition spatiale à travers deux personnages emblématiques que tout le monde connaît. C'était une porte d'entrée, on va dire, pour pouvoir parler de la nouvelle compétition spatiale. Puis on a découvert qu'effectivement, finalement, ils avaient parfois aussi des points communs assez surprenants.
Qui remontent à l'enfance. Par exemple, la référence à la guerre des étoiles, c'est drôle, mais c'est aussi un peu vrai. Le nom de la fusée Falcon donnée par Musk à sa fusée, c'est pas pour rien.
Non, c'est le nom de Millennium, le Falcon Millennium, le fameux de Star Wars. Il a plein de trucs comme ça. Hein. Il fait plein de jokes, de rapports avec toutes ces lectures enfantines de science-fiction qui l'ont vraiment imbibé au plus profond.
Alors, vous avez rencontré beaucoup de gens pour raconter l'ascension, la folle ambition de ces deux-là dans la conquête de l'espace. Qui avez-vous rencontré? Comment vous avez travaillé? Quelle était votre feuille de route?
C'était très compliqué parce que l'espace, c'est un milieu fermé, c'est un milieu technique, c'est un milieu difficile à pénétrer parce que traditionnellement assez stratégique, donc les portes ne sont pas à grande ouverte. Donc c'est vrai que particulièrement aux États-Unis, on n'a pas été reçus à bras ouverts et ça a été un dur travail que de s'approcher de ces gens-là. Et si on rajoute en plus le fait qu'on s'intéressait à Musk et à Bezos, qui sont parmi les deux hommes les plus riches du monde et qui sont totalement cloisonnés, verrouillés, pareil, leur communication est archi fermée, personne ne les approche, ils ne donnent pas d'interview à la presse étrangère, enfin bref. Donc c'était quand même très galère. Au final, en travaillant longtemps, etc., on a fini quand même par décrocher des gens qui ont travaillé avec eux pendant de longues années, des insiders, des gens qui étaient vraiment, qui nous ont ouvert les portes, en tout cas, même si généralement, c'est des gens qui venaient de partir après avoir travaillé 15 ans, 10 ans à l'intérieur de ces entreprises et qui les connaissent bien, et qui connaissaient leur façon de travailler, plus des analystes, des gens qui connaissent bien ce milieu et qui permettaient de prendre un petit peu de hauteur sur l'impact que ces deux barons de l'espace ont pu avoir.
Alors, votre doc commence par les débuts économiques, mais surtout déjà médiatiques des deux jeunes patrons. On est au tout début des années 2000. Jeff Bezos a fait fortune grâce à Amazon. Musk, en revendant sa première entreprise et également ses parts dans PayPal, Est-ce que les médias américains s'intéressent à l'époque de la même manière à ces deux patrons?
Je pense qu'au départ, comme il est plus jeune, clairement, Bezos est une, on va dire, est un grand nom et il est millionnaire et très connu avec Amazon avant Elon Musk. Voilà, Bezos est devenu, a fait la une du Time Magazine bien avant Elon Musk. Elon Musk est encore un jeune millionnaire de la Silicon Valley, dont voilà, qu'on regarde un peu avec le sourire, on va dire.
Avec le sourire et puis ça devient de plus en plus sérieux. On est en 2003. Vous avez rencontré un journaliste qui avait enquêté en 2003 donc sur Jeff Bezos et découvre que le jeune millionnaire a une deuxième passion, une deuxième entreprise secrète basée à Seattle. Il se rend sur place pour enquêter et là, il découvre le secret de Bezos. Incroyable épisode raconté par des spécialistes et des journalistes extraits.
J'ai roulé jusqu'à une sombre banlieue industrielle de Seattle et là, il y avait un entrepôt sur lequel était écrit Blue Origin. Quelques camions et des motos étaient garés devant. Je me suis dit, ok, c'est intéressant. Bon, maintenant, une petite confession. Je ne ferai pas ça aujourd'hui. Mais à l'époque, j'ai fouillé dans la poubelle et j'ai pris les documents qui se trouvaient sur le dessus de la pile. Le premier document disait, c'était vraiment un miracle, que Blue Origin préparait une fusée appelée New Shepard. Son but était de lancer le tourisme en orbite basse. La mission de cette entreprise était de permettre un jour à des millions d'humains de vivre et travailler dans l'espace.
Anecdote assez incroyable, vous y croyez ou pas? Il a vraiment fait les poubelles?
Ah oui, complètement.
Ah bon?
Oui, je pense que...
Alors, ils n'avaient pas de broyeurs, parce que normalement, quand même, on a des broyeurs.
Bon, mais à l'époque, je veux dire, Blue, ça s'appelait Blue, on disait même pas Blue Origin à l'époque, c'était totalement inconnu, et personne ne s'intéressait à ça, et personne ne pouvait même imaginer que ce délire spatial de Jeff Bezos, dont il avait parlé qu'une seule fois à la télé, comme sous forme de blague, était vrai. Et je pense que Brad Stone, qui est un journaliste très sérieux, qui jamais aujourd'hui se permettrait de faire une chose pareille, il le raconte vraiment comme une confession dont il a même un peu honte, mais c'est vrai, oui.
Bezos n'avait pas réagi à l'époque.
Non, Bezos n'avait pas réagi.
Les deux hommes vont lancer un projet spatial chacun de leur côté. Est-ce qu'ils se connaissent à l'époque? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont en concurrence pour la conquête spatiale ou pas du tout?
Oui, alors en fait, ils se sont croisés un petit peu et je crois que ça n'a pas du tout accroché, que ça a participé aussi j'allais dire.
Ouais.
Et puis, ils sont très différents. Enfin, je veux dire, c'est vrai que Musk, c'est ce type qui voulait un peu renverser la table, disrupter le tout, qui se prenait un peu pour le meilleur et qui donnait des conseils, je crois même d'ailleurs, à Bezos au début. Et Bezos, il se considère un peu comme le roi du monde aussi de son côté. Donc, clairement, ça n'a pas accroché entre eux.
Jeff Bezos a dû attendre 2015, donc 12 années, pour qu'il communique en tant que patron de Blue Origin avec son projet de fusée New Shepard, première fusée réutilisable, ce que ne faisait pas la NASA. C'est quand même expliquer que ces gens-là sont très, très, très en avance sur leur temps par rapport à la NASA, qui était l'organisme américain qui disposait de pouvoir et de moyens et de financement considérables. Ils les ont doublés. La fusée doit atterrir à la verticale sur la Terre. La mission est réussie. Pourquoi attend-il autant de temps pour assumer d'être le patron de Blue Origin?
Alors, ça, c'est le grand mystère de Jeff Bezos. C'est vrai que je pense que, de toute façon, Jeff Bezos est quelqu'un qui, contrairement à Musk, travaille avec une communication du secret. C'est son grand truc, même pour Amazon, etc. Et il a reproduit ça pour les fusées. C'est vrai qu'il a choisi, il avait sa philosophie qui était gradatim ferocitaire, pas à pas, férocement. Ça voulait dire, en fait, on ne parle que quand on sait... On avance lentement et on ne montre les choses que quand c'est fait et quand on sait les faire. L'inverse, en fait, de Musk. Musk, au contraire, il dit qu'il va partir sur Mars l'année prochaine. Hein. Donc, alors qu'évidemment, c'est pas possible. Ouais. Donc, voilà, c'est vraiment deux politiques radicalement différentes. Et c'est vrai que Bezos n'a commencé à communiquer qu'une fois qu'il a été capable de faire des grandes choses, on va dire.
Puisqu'on parle de communication, il faut dire qu'il y a Twitter. Pourquoi j'en parle? Parce que Twitter va peut-être être acheté par Elon Musk. On en parle avec vous parce que c'est aussi un volet très important de cette guerre des étoiles, c'est la communication. On est avec Agnès Huffman. Le documentaire s'appelle Musk contre Bezos, la nouvelle guerre des étoiles. On n'attend pas l'année prochaine, on arrive tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Agnès Huffman, réalisatrice, elle signe Musk contre Bezos, la nouvelle guerre des étoiles. Les mots ne sont pas galvaudés, c'est dimanche soir, 21h sur France 5. C'est une guerre des étoiles, on l'a dit, Jeff Bezos a lancé cette fusée Blue Origin, c'était la première fusée réutilisable. Plutôt, il est le patron de Blue Origin, la fusée c'est New Shepard, première fusée réutilisable. C'était en 2015, cette première réussite. Un mois après le lancement et l'atterrissage de ce projet, Elon Musk contre-attaque. Il propose avec sa fusée Falcon 9 la même chose que Bezos, une fusée qui va revenir sur Terre, réutilisable. Elle vole jusqu'en orbite, beaucoup plus haut, plus loin que la fusée de Jeff Bezos, c'est en gros à qui aura la plus grosse. Falcon 9 atterrit à son tour à la verticale, enthousiasme dans le clan Musk, mais la fête est gâchée par un tweet de Jeff Bezos.
C'était un grand soulagement et c'était vraiment génial.
C'était un grand moment pour SpaceX et Elon Musk, mais qui a été un peu refroidi quand Bezos a tweeté « Bienvenue au club », comme pour lui dire « Je t'ai devancé avec New Shepard ».
Entre le clan Bezos et le clan Musk, la guerre des tweets est déclarée.
C'était clairement la mauvaise chose à dire. C'est différent d'atterrir après avoir fait juste un saut de puce.
Il est évidemment beaucoup plus difficile de lancer et de faire atterrir une fusée qui va jusqu'en orbite, notamment en termes d'énergie. Ce que SpaceX a fait était bien plus difficile.
Ce ne sont que des mots, mais c'est d'une violence extrême.
Ah oui, ces deux-là ont joué à un jeu vraiment incroyable sur Twitter, mais alors avec un atout gagnant, j'allais dire, pour Elon Musk, parce que Elon Musk, à l'époque où ça arrive, il est déjà le roi de Twitter. Mmh. Il a un nombre de followers absolument hallucinant, c'est un influenceur incroyable, et Bezos, lui, s'est inscrit sur Twitter en 2015 à la suite de cette première victoire. Donc il n'a absolument pas de résonance. Et quand effectivement il s'amuse à titiller comme ça ou à essayer de prendre un peu position et de communiquer un petit peu, il se fait laminer par l'armée de fans d'Elon Musk qui lui disent « Mais retourne chez toi, en fait, tu n'arrives pas à la cheville des exploits de SpaceX. »
Votre doc s'appelle la guerre des étoiles, mais c'est également une guerre de communication. Quels sont les enjeux, notamment par exemple pour trouver des annonceurs? En quoi la communication est importante dans leur lutte pour le spatial?
Alors, l'enjeu principal, on va dire, pour eux, effectivement, c'est, bon, d'abord, évidemment, ils doivent récolter de l'argent, dans l'idéal des contrats, hein, plutôt avec la NASA. C'est là que ces grands contrats, on va dire, qui étaient jusque-là réservés à l'industrie spatiale lourde, comme Boeing, Lockheed Martin, etc. Le but de ces deux entreprises, c'est d'arriver à en décrocher pour pouvoir effectivement faire du bénéfice et pour pouvoir réinvestir potentiellement dans des nouvelles fusées plus grosses, etc. etc.
Télescopage avec l'actualité. J'ai entendu ça ce matin, pour la première fois, Boeing a réussi à envoyer une fusée qui va rejoindre la station spatiale. C'est quand même hallucinant d'imaginer que des entrepreneurs qui sont partis de rien doublent une firme comme Boeing. C'est quand même absolument dingue. Pensez que si Musk devient propriétaire de Twitter, je vais un peu loin de la science-fiction, il pourrait couper, bannir le compte de Jeff Bezos?
Non, je pense qu'il ne le fera jamais. Justement, c'est contre sa philosophie de la liberté de parole absolue, liberté totale. Enfin non, je crois que vraiment, il ne le fera pas. Après, bon, je ne suis pas dans sa tête. Hein, il est suffisamment versatile pour que je ne risque pas à dire quoi que ce soit sur Musk.
Il se dit libertarien. Oui. Elon Musk est actuellement en train de construire une gigantesque fusée à Boca Chica. C'est au Texas, c'est près de la frontière mexicaine. C'est pour aller sur Mars. La fusée est construite en plein air, sous les yeux de tous. Là aussi, c'est la transparence américaine. On n'imagine absolument pas ça en France ou en Guyane. Tous les fans de Musk et les influenceurs viennent filmer l'avancée des travaux. Une vidéo qui diffuse sur les réseaux sociaux. Extrait.
Nous sommes en direct de la Starbase au Texas. Je m'appelle Jessica Kirsch.
Des fans comme Jessica, très actifs sur les réseaux sociaux, filment et dissèquent chaque étape de la construction de la fusée de SpaceX et répandent dans le monde la religion martienne d'Elon Musk.
Nous sommes en train de regarder le bras de déconnexion rapide attaché à la tour d'intégration de lancement orbital. Ici, sur le pas de tir de la Starbase. C'est une nouvelle ère spatiale. Je suis tellement excitée. J'espère que j'irai à bord d'un de ces vaisseaux un jour. J'adorerais ça.
Il faut dire que Bezos a lancé la construction d'une fusée de 120 mètres de haut pour situer ses 4 fois Ariane 5. 120 mètres, c'est la longueur d'un terrain de foot. Imaginez 120 mètres de haut, une fusée qui décolle. Vous étiez dans le désert, c'est impressionnant. Rien que nous, en tant que spectateurs, on est impressionnés.
C'est Musk, hein, c'est pas Bezos.
Musk, pardon, mais
oui. Et effectivement, oui, ce lieu est absolument incroyable. Hein, cette Starbase à Boca Chica, on voit, il en construit plusieurs, hein, en plus. Voilà. Donc on voit ces fusées absolument gigantesques, on peut presque les toucher. Alors qu'il faut quand même savoir que normalement, l'industrie spatiale, ça se fait dans des usines fermées, clos. Pour rentrer, il y a tout un protocole hyper compliqué.
Et on a peur de l'espionnage des Russes, notamment.
Absolument. Non, mais tout est complètement cloisonné, fermé.
Là, t'es ouvert.
On peut pas rentrer un cheveu parce qu'on a peur que ça abîme les moteurs. hauteur. Ouais. Enfin, c'est complètement délirant. Et lui, il fait ça près de la mer, en plus, avec le vent, le sel, le sable. C'est absolument incroyable.
On voit Musk, dans votre documentaire, prendre son temps pour faire visiter son chantier à des geeks, à des influenceurs. Il a quelle relation avec les médias traditionnels? On a l'impression qu'il les tient un peu à l'écart.
Oui, c'est pas une impression, en fait. Il déteste les médias traditionnels. Ça lui va pas du tout. Il préfère de très très loin maîtriser sa communication en parlant justement à des fans, à des geeks qui parlent le même langage que lui. Des gens, effectivement, à qui il donne le sentiment qu'il est transparent, que c'est une grande aventure que tout le monde partage. Au contraire, il ferme sa porte aux grands médias.
Et si le geek est un espion chinois ou russe ou à la solde des gouvernements de ces pays-là?
Assez risque et péril.
Ça sera l'objet d'un prochain documentaire, peut-être. Merci beaucoup, Agnès Hübschmann. Musk contre Bezos, la nouvelle guerre des étoiles, c'est dimanche soir à 21h sur France 5. C'est dans le cadre du Monde d'en face, présenté par Mélanie Taravant. Merci d'avoir été en direct avec nous.
Merci
dans Culture Média, l'émission qui continue évidemment après les infos de 10h. On va retrouver les télescopages de Bruno Donnet. Il va nous expliquer pourquoi il a beaucoup souffert cette semaine pour les candidats du Rassemblement National qui sont passés à la télé. Notre invité, c'est un comédien. Et quel comédien, André Dussolier. On parle de cette fiction d'Arte. C'est ce soir, Juliette dans son bain. Et puis dans les indispensables, on va clore notre semaine spéciale consacrée à la 3e édition du prix littéraire Europe 1 GMF. 5 romans en lice, Nicolas Caro nous présente le 5e aujourd'hui évidemment. Et puis Sébastien Bordonnave va nous parler d'un recueil consacré à une héroïne ancienne, historique de la BD, c'est Mafalda, Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. A tout de suite sur Europe 1.